Je passe la parole à Michel Matheux, créateur du club des Annales des Mines et des rendez-vous des Annales des Mines, qui va nous parler du point de vue d'EDF.
Bonsoir à tous. J'ai plaisir à me retrouver ici ce soir, même si bien sûr c'est en qualité d'expert ou supposé-tel de l'industrie électrique que je vais m'exprimer maintenant. Alors justement, un expert de l'industrie électrique, sa position face à la question du développement du véhicule à traction électrique est une position que j'ai l'habitude d'appeler agnostique. En fait, la chose qui l'intéresse, c'est que ça se développe. Et j'ai même envie de dire, ce qui l'intéresse, c'est que ça se développe beaucoup. Pourquoi beaucoup? Parce que 1 million de véhicules dans le parc, ça se voit à peine dans la consommation d'électricité nationale. 10 millions de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, on a supposé là un parc un peu mélangé, 10 millions de véhicules à traction électrique, ça commence à se voir par rapport à la consommation du secteur résidentiel, ce n'est pas négligeable. Et si on avait la totalité du parc électrique automobile, évidemment, ça commencerait à se voir énormément, ce serait très substantiel par rapport à la consommation du secteur résidentiel. Donc a priori, le développement vu d'un électricien du véhicule à traction électrique, c'est une bonne chose. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une bonne chose, ça a été dit tout à l'heure, que pour l'industrie électrique, c'est une bonne chose pour tout le monde, puisque je confirme, avec un peu moins de réserve que ce qui a pu être dit tout à l'heure, je confirme qu'avec le parc de production électrique français, en faisant un peu attention, mais ce n'est pas difficile, aux heures de charge, ça ne pose aucun problème d'avoir un avantage considérable en termes d'émissions par rapport aux véhicules thermiques. Je rappelle que la production d'électricité française est décarbonée à 90% et que ce chiffre a des chances de monter à 93% dans les années qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'il faut réunir comme condition pour que cette réussite se produise effectivement? Notre diagnostic, par rapport à l'historique de Christophe tout à l'heure, c'est bien clair, notre diagnostic, c'est que ces véhicules approchent de la maturité. Pour reprendre une plaisanterie célèbre, elles n'en ont jamais été aussi proches. Et en fait, le facteur clé qui permet de franchir la dernière étape qui nous sépare de la maturité totale, il nous semble que c'est la batterie. Alors j'ai projeté là quelques chiffres que je vous invite à considérer comme indicatifs. On peut ergoter certainement de plusieurs pourcents sur les coûts qui apparaissent. Il s'agit de coûts totaux de possession d'un véhicule à gauche thermique, au milieu hybride rechargeable, à droite électrique, ramené au kilomètre. Donc ce sont des centimes par kilomètre. C'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu moins. Ce sont des ordres de grandeur, et quant à 2020, ne prenez pas ça pour quelque chose de chronologique. 2020, c'est une manière d'écrire en 4 caractères l'année où on commencera à produire des véhicules et des batteries en très grande série. Et en fait, ce qu'il faut retenir de ce qui est projeté là, c'est essentiellement un double message. Pour que ça marche, il faut effectivement que les batteries deviennent sensiblement moins coûteuses, et ce sera le cas quand on en fabriquera des séries suffisamment longues. Et ensuite, c'est le sens du petit rectangle blanc mystérieux que vous voyez à droite dans les deuxième et troisième piles. Et ensuite, il faut pouvoir gagner un peu d'argent avec une deuxième vie de la batterie, c'est-à-dire que quand la batterie a fini sa première vie, qui est celle d'utilisation dans un véhicule neuf, il faut qu'elle puisse en connaître une seconde, qui peut être statique ou peut-être encore dynamique, mais en tout cas une seconde qui lui permette de créer plus de valeur qu'elle ne va en consommer au moment d'être recyclée, ce qui est quand même un petit peu compliqué, s'agissant notamment de quelque chose qui contient du lithium. Donc résumé, pour que ça marche, il faut que la batterie réussisse, et à ce moment-là, eh ben, le véhicule ira. Alors est-ce que quand le véhicule va, tout va? Presque. Presque, mais pas tout à fait, parce qu'il reste à faire aller encore l'infrastructure, qui n'est pas gratuite, il reste à charger ces véhicules. Et là, on a une équation qui est simple, mais assez impitoyable. Quand c'est à la maison et que c'est de la charge normale, c'est pas cher. Quand c'est sur la voie publique, c'est un peu plus cher. Quand c'est sur la voie publique et que c'est de la charge rapide, c'est beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher, c'est un facteur qui n'est pas loin d'être de 1 à 100, entre la prise que vous avez dans votre garage à votre domicile et une borne de charge franchement rapide sur la voie publique. Ou pour donner des ordres de grandeur, et c'est compréhensible, c'est une question de puissance, toujours vu d'un électricien, ce que vous avez dans votre garage ou que vous aurez demain dans votre garage, en gros, ça débite à peu près ce que demande votre four ou un lave-linge avec un séchoir. Ce dont vous avez besoin pour faire, comme disent les distributeurs d'électricité, une grappe de bornes à charge rapide sur la voie publique, c'est plutôt un immeuble. Et si vous voulez des belles stations d'échange de batteries qui traitent les choses assez vite, c'est plutôt un petit pâté de maison. Donc on comprend que les ordres de grandeur soient très rapidement croissants. Et nous avions simulé à EDF des scénarios relativement contrastés de développement de l'infrastructure qui permettent de servir de manière plausible un parc de véhicules déjà relativement étendu. Et on arrivait à un facteur de 1 à 2,5 entre un scénario extrêmement économe et au contraire un scénario plus ambitieux. Ce qui nous conduit à penser que la chance de décollage relativement rapide de cet usage de l'électricité non carbonée que constitue le véhicule électrique, la chance, c'est que se développent en premier les usages qui sont les moins gourmands en infrastructure. Et les usages qui sont les moins gourmands en infrastructure, ça a déjà été abordé tout à l'heure par Philippe, ils sont de deux natures. Il s'agit d'une part des véhicules hybrides rechargeables, parce qu'évidemment, ils n'ont pas l'angoisse de la panne électrique. Et s'agissant des véhicules électriques, ceux qui ont des trajets d'ampleur raisonnable et surtout prévisible, et ça, ça a été vu aussi dans des présentations précédentes, c'est typiquement des flottes d'entreprises qui ont des parcours prévisibles ou des déplacements domicile-travail qui, pour la plupart, sont sensiblement plus courts que l'autonomie d'un véhicule électrique. Donc si ces usages démarrent assez vite, il nous semble que la charge d'infrastructure peut rester relativement raisonnable et donc que le fameux décollage qu'on voyait sur la courbe de Christophe tout à l'heure pourrait se faire assez commodément. Alors en ordre de grandeur, qu'est-ce que ça nous donne? Là encore, ne nous obnubions pas sur les chiffres. Nous avons essayé dans une étude interne de simuler ce que serait le développement d'un parc de voitures progressif sur quelques dizaines d'années qui finirait par représenter la quasi-totalité de la flotte, mettons française dans l'exemple. Et nous nous sommes demandé combien il faudrait investir chaque année en régime permanent pendant un moment pour qu'on puisse accompagner ce décollage vers un parc intégralement ou presque électrifié. Donc les ordres de grandeur que nous trouvons, encore une fois, manipulés avec précaution, c'est que pendant un certain temps, il faudrait faire supporter au coût total du véhicule, qui je vous le rappelle tout à l'heure était autour de 20 centimes par kilomètre, il faudrait lui faire supporter un supplément de l'ordre de grandeur de 3 centimes au début, qui ensuite décroîtrait au moins jusqu'à la moitié de cette valeur. Alors sur les petites piles, on voit ce que ça donne, c'est à la fois pas énorme, mais c'est déjà quelque chose. Et donc, pour arriver à financer ce déjà quelque chose, on sent bien qu'il faut chercher à la fois à être efficace dans l'investissement et à le financer le plus adéquatement possible. Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Il y a beaucoup de discussions sur la façon dont on peut organiser ça. Alors, on peut entrer, je pense qu'on y entrera dans le débat, ou peut-être déjà avec Patrick Pellata, on peut entrer sur le type d'opérateurs qui peuvent fournir des services de mobilité électrique. En tout état de cause, ce qui est certain, c'est que, d'une manière ou d'une autre, il faut que quelqu'un paye l'infrastructure. Et il nous semble que, compte tenu de cette énorme différence d'intensité capitalistique qu'on a vue tout à l'heure, la solution n'est pas la même selon le type de branchement auquel on a affaire. Si on a affaire à un branchement privé, et tout particulièrement au branchement très peu gourmand en investissement que constitue la prise à votre domicile, le plus simple, c'est encore de ne pas mettre 36 intermédiaires et de faire payer l'utilisateur. Vous achetez la voiture, en même temps vous achetez la prise, peut-être que vous la payez avec le même chèque, mais en tout cas, en même temps vous achetez la prise. Ça peut probablement s'étendre à des choses un tout petit peu plus chères, telles que les copropriétés, mais il y a une limite à partir de laquelle on entre dans un autre monde, un monde où il y a beaucoup plus de capital et surtout beaucoup plus d'imprévisibilité, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, nul ne peut dire combien de fois une borne de charge rapide installée sur la voie publique va servir. Nous avons essayé de faire des petites simulations économiques. Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous n'avez pas besoin de payer beaucoup d'électricité. En gros, pour faire un plein de carburant électrique, il faut sortir 2 euros. C'est rien. Combien d'amortissements il faut payer sur la borne, selon des hypothèses toutes non invraisemblables que vous faites sur le nombre de clients qui auront besoin d'être rassurés et qui, effectivement, iront utiliser la borne, même s'ils ne sont pas tout à fait en panne électrique, et selon l'hypothèse que vous faites sur la densité qu'on va vouloir mettre dans une agglomération pour que vous la trouviez facilement, peut-être pas à l'œil, mais avec votre navigateur, on peut arriver à quelques euros, ce qui est commensurable avec le plein, mais on peut aussi entrer dans les dizaines d'euros, ce qui, évidemment, n'est pas commensurable. Et si on entre dans ces incertitudes-là, il est clair qu'un investisseur privé ne va pas à lui seul assumer le risque financier lié à cet investissement. Donc a priori, notre pronostic est que pour faire décoller ces infrastructures-là, la solution est une association de type privé-public qui peut être un marché public, par exemple, géré par les collectivités locales ou des partenariats privé-public, comme ça existe dans beaucoup de secteurs de services urbains. Alors, qu'est-ce qui reste à résoudre comme problème pour que ce démarrage se fasse effectivement? On peut retenir les ordres de grandeur. Encore une fois, combien, peu importe, on compte en centimes par kilomètre. Donc on va essayer de voir comment on pourrait trouver des centimes par kilomètre qui équilibrent un peu l'économie du système du véhicule thermique et l'économie du système du véhicule à traction électrique. Alors on peut envisager plusieurs voies. Pardon, monsieur le directeur général d'un fabricant de voitures thermiques, mais on peut se dire qu'après tout, la voiture thermique, elle est quand même un peu plus polluante et donc il n'est pas scandaleux que le pollueur paye. Et donc on peut imaginer une fiscalité différentielle assez substantielle entre le véhicule thermique et les nouveaux véhicules. C'est, pour reprendre un exemple qui a été cité, très clairement la voie israélienne ou la voie danoise. Dans ces pays-là, la fiscalité du véhicule thermique est tellement chargée qu'il n'est pas difficile d'envoyer un signal de différence extrêmement fort à l'usager du véhicule électrique. C'est moins évident dans des pays où la fiscalité thermique n'est pas encore très lourde et où ça peut avoir un coût politique de l'élever sensiblement. Ensuite, la deuxième voie, c'est évidemment de chercher des aides désintéressées. Je veux parler des aides publiques. Alors, des aides désintéressées, elles peuvent aller où ? Elles peuvent aller éventuellement au véhicule et vous savez qu'elles y vont déjà. Et on a vite des montants qui ne sont pas négligeables. Actuellement, vous avez 5000 euros pour l'achat d'un véhicule complètement électrique, la moitié s'il est hybride. Et le fameux centime, il faut à peu près 750 euros en tête au moment de l'achat du véhicule pour le trouver. Donc au moins pendant une période transitoire, parce qu'évidemment, quand il y aura 10 millions de voitures, l'État ne va pas tout financer. Mais au moins dans une période transitoire, il y a là une ressource tout à fait envisageable. Du côté des collectivités locales, on peut aussi envisager qu'il y a un intérêt pour l'infrastructure. Après tout, la desserte d'un territoire urbain par des points de charge de véhicules électriques, c'est quelque chose qui participe d'une image de la ville écologique, un peu au même titre que la création de tramway. Et il y a certainement des possibilités de ce côté-là. Vous voyez qu'on a là des choses qui sont des voies tout à fait plausibles en ordre de grandeur. J'ai indiqué là les fameux 750 euros. J'ai indiqué également qu'un centime, ça pesait à peu près 20 centimes de taxe sur le litre d'essence. Et puis, il y a évidemment des acteurs intéressés. Il y a un certain nombre de parties prenantes qui peuvent trouver que c'est un élément d'attrait pour leurs propres clients, par exemple les parkings, les hypermarchés, que d'offrir une solution d'infrastructure de charge du véhicule électrique. Et donc de ce côté-là aussi, on peut espérer qu'il se passe quelque chose. Alors évidemment, ce que je viens de dire fait un peu pauvre après Christophe, parce que c'était que de l'économie. Ce que vous aurez retenu de Christophe sûrement, c'est que ce qui a été raconté là, ce sont des conditions tout à fait nécessaires, mais absolument pas des conditions suffisantes. C'est vrai, c'est la manière de voir la bouteille à moitié vide. Mais on peut aussi voir la bouteille à moitié pleine en se disant que ces conditions nécessaires, elles sont aujourd'hui accessibles dans la mesure où effectivement l'économie de la batterie n'est plus très loin de son terme et que, puisqu'il y a un fonctionnaire à la tribune, après tout, on ne peut jamais désespérer des sources de financement désintéressées et encore moins des sources de financement intéressées. Merci de votre attention.